On continue notre petite étude sur toutes les bénédictions qu'on a reçues après qu'on ait accepté Jésus. On regarde depuis 10-12 messages qu'on a, puis on a encore d'autres à voir. Des bénédictions qui sont des choses qu'on ne voit pas tous les jours. On ne voit pas ça à l'œil nu, humainement parlant, dire que j'aurais plus d'argent dans mes poches. Mais dans le monde invisible, il s'est passé quelque chose. On est devenu des nouvelles créatures, mais on est des bénéficiaires de nouvelles bénédictions que Dieu, lui, nous a promis dans sa parole, puis que maintenant, nous les possédons. Chaque personne qui est née de nouveau a été rachetée, puis elle appartient au Seigneur, puis le Seigneur prend soin de chacun de nous. Même si on s'en rend pas compte, même si on le ressent pas, même si on n'est pas en train de shaker et tomber à terre parce qu'on a été touché par le Saint-Esprit, tu peux être complètement sans feeling, sans rien, puis que Dieu est quand même avec toi, parce qu'il l'a promis, puis qui est avec ses disciples, puis qui prend soin de nous. Aujourd'hui, l'aspect qu'on va regarder d'une de ces bénédictions-là qu'on a reçues en Jésus, c'est que Yeshua, le Messie, notre Sauveur, Jésus, il intercède pour nous. Si on pense à ce mot-là, ça a l'air d'être un mot compliqué, il intercède. Ça veut dire qu'il entre deux personnes. Intercéder, c'est comme si tu es entre les hommes et Dieu. Tu es entre les deux, mais tu fais un job. Tu es en train de faire quelque chose. Pis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Le premier point qui a rapport à l'intercession, on parle de parler. Quand quelqu'un plaide en faveur d'un autre, comme un avocat plaide pour un autre, c'est l'intercesseur. Il est entre le coupable ou celui qui se fait juger et le juge. Fait que l'avocat est dans le milieu, puis là, il explique des affaires pour intercéder, pour être entre les deux. C'est sûr qu'il fait ses demandes, lui, il dit qu'il veut que la peine soit le moins gros possible. Puis il y en a d'autres qui ont des avocats qui sont là, l'avocat du diable, comme on dirait, qui accuse puis essaye de culpabiliser puis donner le plus de sentences possible. Mais Jésus, lui, il est comme un intermédiaire entre nous puis Dieu, puis c'est le seul intermédiaire, on va voir des versets qui disent ça, entre nous et Dieu. Puis c'est, lui, sa fonction, c'est de plaider notre cause individuellement. C'est fort, c'est super, parce que si tu n'as pas Jésus comme avocat pour te défendre, tu vas l'avoir comme juge pour te condamner. Fait que s'il faut absolument aller à Jésus demander pardon pour être sous son aile de ceux qui lui va protéger. Le chemin ouvert par le Messie nous permet de bénéficier des prières de notre Sauveur. Quand on dit des prières, c'est pas des récitations, là. Qu'on parle pas de récitations. Prier, c'est demander. Jésus est devant le trône, devant son Père, puis il demande des affaires pour nous. Il prie pour nous. Il demande des prières, il demande des choses pour qu'on soit béni, qu'on soit protégé, qu'on soit guidé, qu'on reçoive des bonus dans nos vies. Vous êtes-vous déjà arrêté à réfléchir sur l'efficacité des prières du Seigneur? Est-ce que Jésus, quand il priait, que ses prières étaient passées, puis ça passait dans le vide, puis qu'il n'y avait rien qui se produisait? Dans la Bible, là, quand tu vois que Jésus priait, il était toujours exaucé. Toujours. Quand il était sur la terre, il a même dit lui-même, puis il l'a confessé dans Jean chapitre 11, verset 41. Ça, c'est dans l'histoire de la parabole. C'était pas une parabole, c'était un fait vécu. Il y avait une personne qui était morte, puis elle avait été exposée toute, puis là, ça faisait 4 jours qu'il était dans le sépulcre. Ça veut dire que ça faisait plus que 4 jours que t'es morte. Ils ont dit qu'elle sentait déjà. Puis Jésus a dû ôter la pierre. Ils ont ôté, là, dans Jean 11, verset 41, ils ôtèrent donc la pierre, où ce que la personne morte était. C'était un des amis à Jésus. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus, là, il est en train de demander à son Père de ressusciter le mort qui puait déjà. Est-ce que Jésus a été exaucé? Oui. Jésus continue dans sa prière, il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » C'est là qu'il a dit, « Lazare, sort, puis Lazare est sorti, puis il était tout avec ses bandelettes encore. Toum, 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 toum. Il est sorti, il était vivant. » La puissance de Dieu s'est manifestée en réponse de la prière de Jésus. Est-ce que Jésus, c'est quelqu'un qui est exaucé dans ses prières? Jésus a dit lui-même qu'il était toujours exaucé. Toujours. Sur terre, là, pendant que Jésus marchait, vous le savez que c'est le seul qui a jamais commis de péché. Jésus demeurait toujours sous le regard de Dieu son Père parce qu'il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Il ne péchait point. C'est pour ça que les regards de Dieu étaient toujours sur Jésus, puis étaient toujours exaucés. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 8, le verset 29. Jésus a dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Jésus dit, « Celui qui m'a envoyé », ça veut dire Jésus venait du ciel. Là. Il a été envoyé par Dieu le Père, puis Dieu le Père était toujours avec lui. Il dit, « Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Il y a une leçon quand même à tirer de ce texte-là. Si un chrétien veut sentir ou veut goûter ou veut entendre la voix de Dieu régulièrement, puis ressentir sa présence, puis être assuré, puis de voir les choses se placer dans sa vie, puis être exaucé dans ses prières, mais il faut imiter Jésus en s'efforçant de vivre une vie qui est agréable à Dieu le Père. Parce que quand on pêche, c'est sûr que le diable, il est pas le diable. Dieu le Père est pas content. Le diable, lui, est content, mais pas Dieu le Père. Mais ce qu'il faut regarder, là, on veut parler de l'efficacité des prières de Jésus. Ces deux textes-là nous disent qu'il est toujours exaucé, puis il a toujours la faveur de Dieu le Père parce qu'il marche toujours d'une manière qui est agréable à son Père. Jésus, il était toujours exaucé. Ça, faut se le dire, puis il faut le savoir. Puis, fait que quand on demande de quoi, il dit, Jésus, on va le voir dans une de ses promesses, il dit, je le ferai. C'est Jésus qui va le faire. Notre Sauveur passait beaucoup de temps en prière, surtout lors des situations importantes. Sur la terre, tu le vois, à tout bout de champ, qui est en train de prier. Là, le verset qu'on va regarder, c'est quand il était pour choisir ses 12 apôtres. Ça nous dit, il a passé la nuit à prier. Il passait des nuits entières dans prière à son Père quand il avait des décisions importantes à faire dans sa vie, comme choisir les 12 apôtres. Dans Luc 6, 12, ça dit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il y passa toute la nuit à prier Dieu. » Or, quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il leur donna le nom d'apôtres. On voulait encore comprendre puis approfondir de l'idée que Jésus, tout ce qu'il faisait, il passait les choses en premier en prière. Peu importe les grandes décisions, les petites décisions, même quand il parlait, il était à l'écoute de son Père pour entendre les révélations de son Père, puis il dit, « Moi, je fais que ce que je vois faire au Père. » Il avait les révélations parce qu'il était connecté avec le Père. Sa relation est au point que son Père l'aimait tellement qu'il dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu le Père aimait son Fils. Puis il avait toujours ses regards sur lui, puis il était toujours exaucé. Dieu lui révélait des visions dans le monde invisible, Jésus, pour voir même les attaques de l'ennemi. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas, ça se voit pas à l'œil quand le diable vient puis il t'attaque, ou qu'il attaque quelqu'un d'autre. Ça se voit pas à l'œil, mais faut que ça peut se voir dans le monde spirituel si Dieu t'ouvre les yeux pour voir le monde, ce qui se passe dans le monde invisible. Parce qu'autour de nous, il y a des anges de Dieu qui sont là pour nous protéger, tout ça, mais il y a aussi des anges qui se sont rebellés contre Dieu, ce qu'on appelle le diable et ses démons. C'est des anges qui appartenaient à Dieu, mais se sont rebellés, puis ils font le trouble dans le monde, puis ils influencent le monde, ils donnent des idées au monde, puis là, si tu le vois, si Dieu te le révèle pas, tu le vois pas. Mais Jésus, lui, le voyait. Parce que son Père révélait les choses cachées pour qu'il puisse intervenir en prière. Ça nous dit dans le passage que de Luc chapitre 22, c'est quand que le diable avait réclamé d'écraser Simon-Pierre, l'apôtre Pierre. Le diable avait réclamé de le cribler comme le froment. Cribler, passe au crible, c'est l'écraser. Pour qu'il sorte la farine du grain de blé, là, il passe dans une meule qui l'écrase, puis qui récupère la farine. Le diable voulait l'écraser pour pouvoir le pulvériser puis l'éliminer en tant qu'apôtre. Mais Jésus a compris ça parce que son Père il a révélé puis il a vu ça, ce plan-là du diable. Puis Jésus s'est mis à prier pour Pierre. Dans Luc 22, 31, ça dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, ça c'est Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais, il y a un mais là, puis c'est ça le plus important de la phrase, le mais que j'ai prié pour toi, Jésus priait pour ses disciples, pour les aider à avoir la victoire dans leur vie. Pierre peut pas dire « J'ai réussi à combattre le diable puis je l'ai vaincu ». Non, c'est pas lui. C'est que grâce à la prière de Jésus qu'il a pu faire quelque chose puis là de sortir de ce crible-là. Parce que ça l'a pas empêché de passer au crible. Ça a pas empêché le crible, mais ça a fait que ça a boosté la foi de Pierre pour être capable de passer à travers son épreuve. C'est ce qu'il dit. « J'ai prié pour toi ». Afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire, Jésus enlève pas tout le temps les épreuves. Il enlève pas les maladies. Il enlève pas tout le temps les souffrances. Il enlève pas tout le temps nos combats. Mais il va nous booster notre foi. Il va prier pour nous en intercédant pour que notre foi soit forte, qu'on reste debout dans notre épreuve. Pourquoi? Parce que l'épreuve de notre foi produit de la patience. L'épreuve de notre foi produit de la persévérance. L'épreuve de notre foi nous fait grandir en force devant le Seigneur quand on s'accroche au Seigneur et qu'on persévère. Puis c'est ça que Jésus savait, là, pour ça qu'il a prié pour qu'il y ait de la foi. Donc, ça veut dire, peu importe ce que nous on est en train de vivre, Jésus est en train de prier pour nous autres dans nos combats, pour qu'on garde la foi dans notre épreuve, puis qu'on ressorte de notre épreuve victorieux. Si Jésus était comme ça sur la terre, à combattre pour ses disciples, à prier tout le temps, puis être toujours exaucé, imaginez maintenant, après qu'il ait été ressuscité et glorifié, tant qu'au meilleur, il voit tous les problèmes de toute la planète. Il voit tout, puis en plus, il a la toute-puissance pour les régler. Quand Jésus était ressuscité, là, il est retourné dans sa position qu'il avait avant de venir ici. Ça dit dans Jean 17, 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. » auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi-même avant que le monde fût. Ça veut dire qu'il est en train de prier pour dire, ramène-moi ce que j'étais auprès de toi avant que je vienne sur la terre, puis ça, j'étais là avant que le monde fût. Jésus était là avant même le commencement de la première atome de créer sur la création terrestre. Il était là bien avant, il était là de toute éternité, parce que Jésus est aussi Dieu. Il est en Dieu, puis il est éternel comme Dieu, le Père. Fait qu'on voit qu'après ça, avant de mourir sur la croix dans Jean 17, qui demande de retourner où ce qui était. Puis c'est ce qui est arrivé. Parce que quand il est mort, ça dit qu'il est descendu 3 jours dans le séjour des morts. Après ça, il est sorti, puis il est monté dans les cieux, puis il est allé porter son sang dans les cieux. Ça dit que il est apparu à ses disciples pour démontrer qu'il était vraiment ressuscité. C'est là qu'il a rendu témoignage de ce qu'il avait reçu après sa résurrection. Il a reçu plus que ce qu'il avait avant. Dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus est maintenant le Tout-Puissant. C'est fort. Avant, il était très puissant parce que son Père l'exauçait. Là, il est rentré dans la présence de son Père, ce qui était auparavant, puis il est redevenu le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. La parole faite chair est maintenant retournée dans les cieux auprès de son Père, dans ce qu'elle était. Puis maintenant, celui qui prie pour tout le monde puis qui est toujours exaucé, il est le Tout-Puissant, puis il est assis dans les cieux. Wow! Jésus avait déjà promis ce qu'il ferait une fois ressuscité. Lui, il a fait une promesse avant qu'il meure, qui dit, après je sois ressuscité, je vais faire ça. Il nous a dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, puis il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Là, il disait qu'il va se passer des choses miraculeuses dans la vie des disciples, parce que moi, je m'en vais au Père. Mais ça ne s'arrête pas là. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui dit qu'il va répondre à la prière. Si je demande quelque chose en son nom, Jésus a dit, je le ferai. Ça veut dire qu'on peut avoir confiance aujourd'hui que quand on demande à Dieu le Père, dans le nom de Jésus, Jésus s'est déjà engagé avant d'être mort. Il a dit, mais je suis ressuscité, tout ce que vous allez me demander en mon nom, c'est moi-même le Tout-Puissant qui va le faire. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que quand on demande des choses dans le nom de Jésus puis que Jésus les fait, mais ça glorifie Dieu le Père. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'on demande au Père, puis quand tu demandes au Père, mais tu as demandé à Jésus, puis quand tu demandes à Jésus, c'est comme si tu l'as demandé au Père, parce que Jésus est Dieu aussi. Il agit en fonction que Dieu. Contrairement à ce qu'on entend dans des religions, qu'il y aura des saints dans le ciel, que tu peux lui demander des affaires, eux ne peuvent rien faire. Il y en a juste un qui est mort, puis qui est ressuscité, puis qui est monté là, puis c'est Jésus. Les autres, c'est toutes des âmes qui attendent la résurrection. Ils peuvent rien faire, puis ils sont pas tout-puissants. Il y a juste un tout-puissant, c'est Dieu. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, c'est les trois qui forment un seul Dieu. Il y a juste lui qui est ressuscité. Puis chaque fois qu'on s'adresse à Dieu, faut pas prier par Marie, faut pas prier par Saint-Si, puis Saint-Ça, puis Saint-Piace. C'est pas ça qu'il faut prier. C'est Dieu qu'il faut prier dans le nom de son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il est toujours exaucé. Tu demandes en son nom. C'est comme s'il nous a donné sa carte de crédit pour demander de passer ça sur sa carte à lui. C'est sur ses mérites à lui qu'on est exaucé. On demande en son nom, puis il a dit qu'il était pour le faire. Le Messie Yeshua, il est devenu par Dieu son Père, le seul médiateur. Un médiateur, là, c'est quelqu'un qui est entre deux groupes, entre deux parties. Un médiateur, c'est quelqu'un qui négocie entre les deux. Parti, que ce soit dans le monde, là, les patrons, puis les employés, puis celui qui négocie, c'est le médiateur. Ou le gouvernement, puis un groupe qui demande quelque chose, celui qui négocie, c'est un médiateur. Jésus, c'est le seul médiateur qui est appointé par Dieu pour être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le Messie Yeshua est devenu par Dieu son Père le seul médiateur qui veut dire intermédiaire en Dieu et les hommes. On voit ça dans 1 Timothée 2:5. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur en Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Fait que si vous voulez vous adresser à Dieu, faites votre requête en passant par Jésus. C'est pour ça qu'il nous a enseigné de demander les choses en son nom. On passe par Jésus. On passe pas par d'autres intermédiaires. Parce que Dieu en a pas mis d'autres intermédiaires. Il a juste mis Jésus comme intermédiaire. Comme je disais tantôt, dans le texte original, là, en hébreu, ou en grec, je veux dire, le mot médiateur, c'est celui qui intervient entre deux parties, soit pour faire ou restaurer la paix, parce que des fois, t'es deux pays qui sont en guerre, il y a un médiateur qui jase, puis qui amène les idées d'un puis de l'autre pour rétablir la paix. Mais Jésus est celui qui est entre Dieu et les hommes pour rétablir la paix, puis pour les exaucements, puis tout ce qui a à être discuté, faut passer par l'intermédiaire. C'est biblique. Puis, un intermédiaire de communication aussi en même temps. Il est devenu l'intermédiaire de la dernière et la plus excellente alliance, qui est la nouvelle alliance en son sang, ce que Jésus a enseigné. Dans Hébreux 8:6, ça nous dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère, en parlant de Jésus, en mourant puis en ressuscitant, en payant le prix puis en ressuscitant, puis en ayant fait ce qu'il a fait, il a reçu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. C'est un nouveau ministère d'être le médiateur, d'être entre les deux. Il a été établi sur de meilleures promesses. Parce que là, c'est des promesses qui sont garanties par le médiateur lui-même. Les prophéties annonçaient que le Fils serait le souverain sacrificateur pour l'éternité. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça l'annonçait que le Messie serait le souverain sacrificateur. Pour vous mettre dans le contexte, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des sacrificateurs. Les sacrificateurs, leur travail, c'était des intermédiaires entre les hommes et Dieu. Mais dans le temple de Dieu, à Jérusalem, il faisait les sacrifices, là. Fait que quelqu'un qui voulait être pardonné, il amenait son taureau, il amenait un agneau, il amenait des tourterelles, il amenait des affaires, des animaux, pour être offert en sacrifice à Dieu. Mais la personne ne pouvait pas offrir le sacrifice elle-même. Fallait qu'elle passe par un sacrificateur, puis lui, le sacrificateur, prenait les animaux, puis il fallait que ce soit des animaux purs, bien sûr, pas malades, pas des bêtes chétives, des bêtes aveugles ou des maladies, avec des maladies. Des bêtes tough, de quoi pour être pardonné, il fallait que ce soit un animal pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Là, il offrait au sacrificateur l'agneau, puis le sacrificateur faisait une cérémonie, il tuait l'agneau, il récupérait le sang, puis il allait porter le sang dans le lieu saint, le sacrificateur. Tous les sacrificateurs de la tribu de Lévi, c'était leur job de servir dans le temple, mais aussi de faire des sacrifices. Il y avait une gang qui était des sacrificateurs. Mais il y avait un souverain sacrificateur. Le souverain, c'est le chef de tous les sacrificateurs. C'est le principal au-dessus de tous les autres. Puis lui, ça nous dit qu'une fois par année, il prenait du sang, lui-ci, avec des sacrifices, puis il allait offrir ça dans le lieu très saint. Parce qu'il y avait une séparation dans le temple. Il y avait le lieu saint où les sacrificateurs allaient, puis il y avait le lieu très saint qui est en arrière du voile. Le voile qui a été déchiré quand Jésus a expiré. Mais le souverain sacrificateur rentrait une fois par année dans le lieu très saint pour aller porter le sang pour pardonner ses péchés et les péchés du peuple. Puis les prophéties ont dit que le Messie deviendrait le souverain sacrificateur, mais pour l'éternité. Les celles de la loi de Moïse, ça changeait à tous les ans. Selon la classe qui était, il y avait des différences entre les sacrificateurs, puis il y en a un à chaque année nouveau qui allait là, puis c'était lui qui devenait le souverain sacrificateur, tandis que Jésus, il est devenu le souverain sacrificateur, mais pour l'éternité. Puis lui, ça changera jamais, c'est le seul qui est devenu l'intermédiaire au-dessus de tous les sacrificateurs. Puis, ça dit que les prophéties dans Hébreux 6:20, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Lui était dans une autre lignée de sacrificateurs, puis il est devenu le sacrificateur pour l'éternité. C'était le travail du souverain sacrificateur, comme je vous expliquais tantôt, d'entrer une fois par année dans le lieu très saint pour aller présenter le sang d'un sacrifice pour le pardon de ses péchés puis des péchés du peuple. Une fois par année, c'est ce qu'on voit dans Hébreux 9:6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Ça, c'est dans le lieu saint. Et dans la seconde, c'est le souverain sacrificateur seul qui entre une fois par an, non pour y porter du sang qu'il offre pour lui-même, mais non sans y porter, ça veut dire qu'il portait du sang pour lui et pour tout le peuple, une fois par année. Puis Jésus est devenu le souverain sacrificateur en ayant porté son sang à lui, le sang du Messie, du seul qui était sans péché, il était présenté à Dieu le Père dans les lieux célestes. Y a-t-il quelque chose de plus encourageant que de savoir que nous avons un souverain sacrificateur miséricordieux et compatissant auprès du Père, qui nous comprend puis qui veut notre salut? Puis en plus, le souverain sacrificateur-là, il est tout puissant. Dans Hébreux 4:14, ça dit, et puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, parce qu'il est souverain sacrificateur pour nous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est un Dieu-là. Il y a entre nous et lui un intermédiaire qui a été placé là par Dieu pour être le souverain sacrificateur. Il est le Tout-Puissant, puis il prie pour nous. Il intercède pour nous. La Bible dit que le Seigneur est ressuscité, puis il continue à intercéder pour nous. Dans Romains 8:33, ça dit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est qui va nous condamner si on a quelqu'un, le Tout-Puissant, qui prie pour nous, puis qui intercède, puis qui veut nous emmener avec lui. Dans son intercession pour nous, il plaide notre cause comme un avocat. Dans 1 Jean 2:1, ça dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Jésus y intercède en plaidant notre cause comme avocat. Le mot avocat, attendez un instant. Il a pris le meilleur, puis c'était le seul en plus. Il n'y a pas grand choix. Le mot avocat que là dans la phrase, c'est parakletos. C'est le même mot que le Saint-Esprit. C'est le mot grec pour désigner avocat ou c'est le mot qui a été traduit par Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le paraclète, c'est lui qui est, il est là pour notre aide, pour nous plaider pour nous secourir. Puis Jésus, c'est lui-ci appelé ce même mot-là. Il est l'avocat, il est celui qui nous aide, qui prend soin de nous, qui plaide notre cause pour qu'on se rende. C'est la même affaire. Dieu, c'est Dieu le Père, là, Jésus puis le Saint-Esprit, c'est la même affaire puis ils ont le même but. Il veut qu'on rentre dans la vie éternelle. À cause qu'il demeure éternellement, il peut exercer son rôle de souverain sacrificateur et continuer de sauver et d'intercéder pour nous. Dans Hébreux 7, 24, ça dit, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. » Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est pour ça qu'il faut passer par Jésus. Parce que si tu passes par Jésus, il peut te sauver parfaitement. Si tu passes par un autre, tu ne seras pas sauvé. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. C'est pour ça qu'il faut bien focusser sur Jésus. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il est toujours vivant, puis il intercède, il plaide comme pour nous, puis il dit à son Père, « Père, ils ont mon sang sur eux, ils lui ont demandé pardon, puis ils me suivent, puis ils m'aiment. » Le Seigneur, il nous garde, puis on est secouru quand on pêche, à cause quoi? On bénéficie d'un super très bon avocat. Sinon, essaye pas de te présenter en cause sans avocat pour essayer de défendre ta cause toi-même. T'es sûr que tu perds. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. C'est juste le sang de Jésus qui peut nous sauver. T'as pas eu le choix, faut que tu passes par Jésus. C'est grâce à l'intercession du Seigneur qu'on a pu recevoir le Saint-Esprit. On est né de nouveau, là. C'est grâce à ce que Jésus a intercédé pour nous. Jésus a prié pour nous pour qu'on le reçoive. Dans Jean 14, 16, Jésus a dit ça avant qu'il meure. Il dit, « Et moi, en parlant Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre avocat, un autre paraclétos. » C'est le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, je prierai, ça veut dire, il intercédera pour nous pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Puis ça s'est accompli, les apôtres l'ont reçu, puis après ça, les autres qui ont été sauvés l'ont reçu, puis 2000 ans encore, nous, on l'a reçu. Notre vie a été touchée, commence à être transformée par la puissance du Saint-Esprit, puis c'est grâce que Jésus a prié pour nous pour qu'on le reçoive. C'est dans sa fonction d'intermédiaire, sa fonction d'intercesseur. C'est grâce à ses prières qu'on l'a reçu. C'est fort. Tout vient de Dieu. Tout vient de Jésus. Tout vient du Saint-Esprit. Cherchons pas ailleurs. Le Seigneur continue d'intercéder pour nous au travers du Saint-Esprit en plus. Dans notre vie d'ici, là, Jésus continue d'intercéder à travers du Saint-Esprit. Voyez-vous, il n'a jamais fini. Il intercède encore aujourd'hui. Il prie pour nous à travers les dons spirituels du parlant en langue. Dans Romains 8, 26, ça nous dit de même aussi l'Esprit qui est le paraclétos, puis Jésus aussi, c'est l'avocat qui est le paraclétos. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous savons pas ce qu'il convient demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que Jésus lui-même continue d'intercéder dans chacun des croyants pour les autres saints. Ça veut dire, il intercède dans le ciel, puis il intercède à travers les croyants en priant quand les gens prient par le Saint-Esprit. C'est fort comment est-ce que Jésus veut qu'on rentre. Il prie sur tous les bords, tous les côtés, puis il fait des œuvres, puis il plaide pour nous autres pour être sûr qu'on rentre. Si on rentre pas là, c'est parce que vraiment on a résisté contre Dieu pour pas rentrer. Parce que si quelqu'un veut rentrer, il va être sauvé. Mais si tu résistes puis tu veux pas, c'est sûr que tu rentreras pas. Je peux pas forcer personne. Puis il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs, Dieu le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, du Paraclétos, qui est Jésus aussi, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire, il prie pour les saints. Ça, les saints, c'est qui? C'est les vivants qui sont autour. Fait que les croyants qui savent pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous inspire à prier pour les autres, Puis ça, c'est encore, ça fait partie de l'intercession que Jésus est en train encore de continuer à faire dans le ciel puis dans le monde. C'est extraordinaire. Puis je finis avec un dernier passage. Ayant comme intermédiaire notre Seigneur qui prie pour nous, soyons encouragés et restons fermes dans ses promesses. Dans Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, on a, grâce au sang de Jésus, une entrée libre dans le lieu très saint, le lieu qui était rien qu'un souverain sacrificateur qui pouvait rentrer là une fois par année. Jésus, en expirant, le voile a été déchiré, séparé, puis maintenant, on a une entrée libre, gratuite, pas parce que ça vaut rien comme entrée, que c'est une affaire cheap, pas du tout, c'est parce que c'était payé par Jésus. Le prix qu'on pouvait pas payer, Jésus l'a payé, puis il a payé le prix pour rendre ça libre à tout le monde. Quiconque veut être sauvé présentement peut l'être. Il a juste à mettre sa foi dans le Messie, puis il va être pardonné, puis il va rentrer. On a une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est une route nouvelle. Ça n'existait pas, cette route-là, avant que Jésus meure. Il fallait que le sacrifice soit fait. Après ça, ça a ouvert une route pour rentrer au ciel. Parce que c'est Jésus qui est le premier qui a rentré 3 jours après, puis il est rentré dans la présence de Dieu. Puis là, il a ouvert le tunnel pour qu'on puisse y aller grâce à son sacrifice, grâce à ses intercessions, grâce à l'œuvre qu'il va faire en nous tout le long de notre vie terrestre. Puis il dit au verset 21, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, puis ça c'est le Messie, approchons-nous avec un cœur sincère. On n'a plus besoin de craindre de s'approcher de Dieu. « Oh Dieu, vas-tu me pardonner? Oh Dieu, m'aimes-tu vraiment? Dieu, il veux-tu que je m'avance? » Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Parce que si on a notre conscience qui nous accuse, sache que si tu as demandé pardon, t'es pardonné. Faut pas t'écouter ta conscience qui t'accuse une fois que tu as demandé pardon. Jésus a plaidé pour toi, il t'a purifié. Maintenant, approche-toi avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Doute pas, Dieu t'accepte, t'es pardonné, tu fais partie de la famille de Dieu, puis il y a même hâte qu'on y aille. C'est quand qu'on y va pas que ça lui fait de la peine. Quand qu'on dit j'ai plus le temps pour lui, ou qu'on, tu sais, qu'on néglige notre relation avec notre Père. Dans plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, puis le corps lavé par une eau pure, qui est la parole de Dieu. Retenons fermement la profession, ce qu'on a confessé, qu'on croit que Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est pas un menteur. Dieu, c'est pas un menteur. Le diable, c'est un menteur. Dieu, tout ce qui est écrit dans sa parole comme promesse, c'est des vérités. Puis il nous aime, puis il veut nous sauver. Puis il veut qu'on comprenne que Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Il veut qu'on s'accroche à ça, puis qu'on reste fidèle, qu'on reste ferme dans cette foi-là jusqu'à la fin. Amen. On va prier, parce que je vais toujours donner l'occasion, s'il y a quelqu'un qui se dit, moi, ça, j'entends ces messages-là, puis ça me parle, je veux être sauvé. Si tu veux être sauvé, fais cette prière-là, ça commence à quelque part, ça commence au moment que tu fais le pas, en parlant à Dieu, puis demandant pardon, puis de confesser que tu crois que Jésus a tout accompli. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tous vos péchés. Marchez par la foi. Croyez en les paroles du Seigneur, puis restez accrochés à Jésus. Puis un jour, on se retrouvera dans la vie éternelle. Amen.